Bon réveil à tous, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Troisième discussion entre la Convention citoyenne pour le climat et Emmanuel Macron aujourd'hui, alors que les malentendus s'accumulent entre les membres de cette commission et le chef de l'État. Ce sera aussi le thème du billet politique de Frédéric Seyss à Presse Journal.
À Lyon, la nouvelle métropole écologiste va voter aujourd'hui une délibération importante, la mise en régie publique de l'eau, jusque-là gérée par le groupe privé Veolia.
Nous irons aux États-Unis également, où les autorités vont entamer ce lundi une gigantesque campagne de vaccination préparée en toute hâte.
Alors qu'en France, c'est la ruée sur les sites de vente en ligne avant Noël, les commerces ont dû s'adapter, les entreprises de livraison aussi.
Enfin, nous évoquerons à la fin de ce journal l'œuvre et la vie de John le Carré, célébrissime auteur britannique de romans d'espionnage, décédé à l'âge de 89 ans. Cela fait des jours que la frustration monte, la frustration des membres de la Convention citoyenne pour le climat, la CCC, chargée d'élaborer une série de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Réunis par Emmanuel Macron dans une optique de démocratie participative, ils ont effectivement proposé des solutions dont plusieurs ont été ignorées par l'exécutif dans sa version finale de la loi climat. Sans compter la crise sanitaire et les mesures afférentes comme l'octroi de millions d'euros sans contrepartie à des secteurs notoirement polluants comme l'aéronautique ou l'automobile. Ce soir, à 17h, au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, les 150 membres de cette commission vont donc avoir une discussion avec Emmanuel Macron, quelques jours seulement après une interview sur le média social Brut, dans laquelle le chef de l'État estimait que les propositions de la Convention n'étaient, je cite, ni la Bible, ni le Coran. Rosalie Lafarge.
Un exercice démocratique inédit, censé ramener de la confiance. C'était aussi ça l'idée de cette convention citoyenne après les Gilets jaunes et le grand débat. Et forcément, entendre Emmanuel Macron sur Brut évoquer 150 citoyens qui ont écrit un truc, ça a du mal à passer.
Ah oui, c'est extrêmement violent.
Et attention à l'effet déception entre les promesses de départ et le résultat à l'arrivée, prévient le spécialiste de la démocratie participative Loïc Blondiaux, membre du comité de gouvernance de la convention citoyenne.
Ce moment d'entre-deux, là, qui est le moment d'écriture du projet de loi actuel, ne me paraît pas véritablement satisfaire personne. Les citoyens ne sont pas à armes égales avec leurs interlocuteurs dans ce processus de négociation. Ils sont tenus informés à la dernière minute, ils sont parfois mis devant le fait accompli, donc on ne peut pas parler d'une co-construction et donc il me semble que c'est relativement nuisible à ce que pourrait être l'institutionnalisation à l'avenir de ces dispositifs.
Mais n'enterrons pas trop vite un processus pas encore arrivé à son terme, insiste pour sa part Jean-Charles Collaroy, député et référent transition écologique à La République En Marche.
Je ne fais pas de procès d'intention a priori. Donc j'attends d'avoir le texte. On est capable aussi de faire notre travail de représentant de la nation qui est différent de celui des citoyens. C'est complémentaire du travail qu'ils ont fait. Donc on n'est pas obligé de reprendre totalement les mesures. On peut en changer, on peut les amplifier. Bien sûr que certains regarderont toujours le verre à 20% vide alors qu'il y aura 80% de mesures très structurantes. Mais moi je m'inscris pour qu'on soit le plus ambitieux possible.
Mais là encore, la majorité a du mal à parler d'une seule voix et à terme pour l'exécutif. Le risque est double, décevoir sur le plan écologique et sur le plan démocratique.
Rosalie Lafarge. Et pendant ce temps, à Lyon, la nouvelle équipe écologiste de la métropole met en pratique son programme politique avec une décision majeure et qui concerne un bien commun, l'eau. Ce ne sera désormais plus une entreprise privée, en l'occurrence Veolia, qui s'occupera de la gestion, de la production et de la distribution de l'eau, mais la collectivité, la métropole, qui représente 1 400 000 habitants. Une régie publique de l'eau est ainsi créée sur les terres historiques de la Compagnie Générale des Eaux devenue Veolia. Cette décision d'importance ne va pas sans grincement de dents. À Lyon, le reportage de Mathilde Imberti.
Comme Paris avant elle, Lyon reprend la main sur l'eau. La métropole de Lyon en l'occurrence. Plus de 50 communes, 1 400 000 habitants. Aujourd'hui, c'est le deuxième contrat le plus important de Veolia Eau en France. Mais voilà, le président écologiste de la métropole, Bruno Bernard, ne veut plus de privé dans ce domaine.
Oui, ça fait partie des chantiers importants pour la métropole de Lyon. Ils sont nombreux, mais celui-là, il est très symbolique, très philosophique. L'eau est un bien commun. Et on veut vraiment qu'il soit géré dans l'intérêt commun, sur du long terme, et qu'il ne soit pas aux mains du privé. Oui, l'eau, c'est le bien commun le plus précieux que l'on a, et c'est pour ça qu'il faut le gérer en public, ce qu'a fait d'ailleurs énormément de villes, Paris ou Nice, donc de différents ports politiques, de gérer l'eau.
C'est un positionnement idéologique, rétorque l'opposition. On monte le privé contre le public, tempête la droite. Quant au groupe Inventer la métropole de demain, dont fait partie Gérard Collomb, ancien homme fort de la collectivité qui a signé le contrat avec Veolia en 2015, ce groupe présidé par l'élu lyonnais Louis Pélaez conteste manifeste un aveuglement dogmatique.
On dit aux Verts qu'ils ne peuvent pas se passer d'un débat démocratique sur ce sujet. Et donc, on voit bien que la décision, elle a simplement été prise d'un point de vue purement idéologique, alors que ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt général. Et donc pour ça, il faut au moins qu'on mette tout sur la table.
Enjeu financier, un contrat à 90 millions d'euros par an sur lequel Veolia se réserve une marge de 5 à 6 %. Le passage en régie sera effectif en 2023, soit deux petites années pour se préparer à ce changement majeur.
Et la mise en régie publique de l'eau à Lyon, ce sera également le thème du dossier du journal de 18h ce soir sur France Culture. Il touche à sa fin, 3 mois et demi après son ouverture. Le procès des attentats de janvier 2015 va entendre aujourd'hui les ultimes plaidoiries de la défense et les derniers mots des accusés avant que la cour ne se retire pour délibérer. Quelques heures seulement pour les avocats, qu'ils tentent de convaincre les juges de ne pas suivre les lourdes réquisitions du parquet national antiterroriste. Ce lundi, donc, les avocats de Mohamed Fares et de Michael Nezar Pastor Al-Watik vont se succéder à la barre. Leurs clients encourent respectivement 7 et 20 ans de réclusion criminelle. Florence Turme.
Les accusés auront une dernière fois la parole à la fin des plaidoiries cet après-midi. La parole en dernier, comme dans tous les procès d'assises. Les accusés présents, bien sûr, puisqu'ils sont 3 grands absents. En plus, bien sûr, des 3 auteurs directs des attentats. Les frères Belloucine, présumés morts en Syrie, mais sans certitude absolue. Et Ayad Boumediene, la compagne d'Amédi Koulibaly, partie avec eux à la veille des actions terroristes. Celle que l'accusation a surnommée la princesse de l'EI et contre qui les avocats généraux ont requis 30 ans de réclusion criminelle. Dans le box, Alireza Polat reste le seul poursuivi pour complicité de crimes terroristes. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, peine requise par l'accusation. Ses avocats ont plaidé l'acquittement, tout comme plusieurs de leurs confrères, face aux lourdes peines demandées par le parquet national antiterroriste. Une défense offensive et ciblée contre un réquisitoire jugé déloyal, dénué de preuves réelles, brocardé par tous, bas de gamme et je pèse mes mots, dit David Applebaum, l'avocat d'Abdelaziz Abad. Les réquisitions, ce n'est pas un exercice de broderie, lâche Zoé Royaux pour Saïd Maclouf. Il est innocent et il ne paiera pas pour les frères Kouachi et Koulibaly, poursuit-elle. Innocent, ça ne se négocie pas, innocent, c'est l'acquittement. Avec ce message à l'adresse de la cour, en écho à tout ce porté par la défense, je vous demande de raisonner, de rendre la justice, pas un message politique punitif, de rendre la justice sereinement, sans trembler.
Verdict attendu mercredi.
8h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Faute d'avoir réussi à enrayer la propagation du virus, les États-Unis lancent aujourd'hui une méga campagne de vaccination anti-Covid organisée en un temps record.
Oui, plus de 16 millions d'Américains ont été contaminés. On le rappelle, le pays devrait franchir dans les prochaines heures la barre symbolique des 300 000 morts. Mais après le feu vert donné vendredi soir par la FDA, l'agence de régulation des médicaments, la vaccination peut débuter. Les autorités américaines espèrent vacciner 20 millions de personnes avant la fin de l'année. À Washington, Grégory Phillips.
Des applaudissements nourris de la part des ouvriers de Pfizer quand hier matin, les premiers cartons contenant les premières doses de vaccins sortent de l'usine de Kalamazoo dans le Michigan pour être expédiés dans chacun des 50 États, 6 grandes villes et à 5 agences fédérales. Les opérations de vaccination vont donc commencer dès ce matin. En priorité, les personnels de santé, les résidents des maisons de retraite. Aussi, et c'est plus étonnant, les équipes de la Maison-Blanche, celles et ceux qui travaillent dans la West Wing, à proximité du président. Fin décembre, les autorités sanitaires espèrent avoir vacciné 20 millions d'Américains, 100 millions fin février. Mais les personnes bien portantes ou qui ne sont pas considérées comme des travailleurs essentiels devront sans doute attendre le printemps. Le docteur Mansef Slaoui, qui dirige l'opération Warp Speed, vitesse de l'éclair, était l'invité de Fox News hier matin. Nous devons parvenir à immuniser 75 ou 80% de la population. On espère atteindre ce point en mai ou en juin et nous sommes préoccupés par le nombre de ceux qui hésitent. Maintenant qu'on a plus de données, on espère qu'ils seront d'accord pour dire que c'est un vaccin très sûr, très efficace et qu'ils le prendront. Les derniers sondages indiquent que pour l'instant, une petite majorité d'Américains, entre 50 et 60% selon les enquêtes d'opinion, comptent se faire vacciner.
Grégory Phillips. Et puis en Allemagne, où la pandémie est hors de contrôle selon certains dirigeants, un confinement partiel a été décrété hier à partir de mercredi jusqu'au 10 janvier. En Saxe, à l'Est, les fermetures de magasins et d'écoles entre en vigueur aujourd'hui. En France, la vaccination n'est pas prévue dans l'immédiat faute de validation des vaccins par les agences concernées. Le nombre de cas est en baisse ces dernières 24 heures à 11 533, loin pourtant du seuil fixé par le gouvernement pour déconfiner. Les hospitalisations, en revanche, sont en légère hausse. Alors les lieux de culture, on le sait, ne seront pas rouverts dans l'immédiat, de même que les bars et les restaurants. Les commerces non essentiels, en revanche, le sont. Mais ils seront nombreux, les Français, cette année, à éviter de s'y rendre en privilégiant les achats en ligne, une pratique qui augmente depuis le début de la pandémie. Diane Berger.
Noël représente toujours un pic d'activité, reconnaît Philippe Trétat, PDG de DHL Express France. Mais aujourd'hui, Covid oblige, le nombre de livraisons explose les records.
On va faire là, sur la période de fin d'année, donc novembre-décembre, à peu près 35% de colis en plus par rapport en fait au reste de l'année et 20% par rapport à Noël de l'année dernière.
Un essor lié au changement de consommation des Français, mais aussi à une adaptation des acteurs du marché traditionnel, explique Marc L'Olivier, le directeur général de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente en distance.
C'est d'abord une accélération de la part de toutes les enseignes magasins qui étaient déjà présentes sur le web, les grandes enseignes qui, elles, ont véritablement accéléré leur transformation digitale. Et puis, on a aussi les acteurs plus traditionnels, les petites structures qui n'avaient pas toujours le temps de se mettre à la vente sur Internet et qui, du fait de la fermeture administrative, s'y sont mis.
À La Poste, on parle même d'un mois de décembre historique, 4 millions de colis par jour. C'est un défi logistique. Jacques Grégoire, le directeur national des opérations de Colissimo, assure avoir mis les moyens qu'il faut.
Immédiatement, on a mis des moyens supplémentaires en doublant presque le nombre de liaisons de transport qu'on peut avoir sur les routes. La Poste a embauché près de 9000 personnes cette année, rien que sur cette période-là, pour être en capacité de livrer ses colis.
Mais ces 9000 recrutements ne suffisent pas, réplique la CGT. Le syndicat dénonce des suppressions de postes en intérim pendant le premier confinement, jamais compensées depuis et qui pèsent aujourd'hui sur les cadences des équipes.
Elle approche la date limite pour conclure un accord de Brexit avec le Royaume-Uni. Si au 31 décembre, aucun texte commercial n'est conclu, alors ce sera le Brexit dur. Mais dans cette saga, tous les délais fixés ont été maintes fois dépassés. Chaque fois, les négociations ont repris. Cette fois-ci encore, les représentants des deux parties, en l'occurrence Ursula von der Leyen pour la Commission et Boris Johnson pour le Royaume-Uni, ont promis dans un communiqué commun hier de donner encore une chance à la discussion. Pour Nathalie Loiseau, députée européenne LaREM, la négociation est rendue difficile car les négociateurs anglais sont, pense-t-elle, plus dans l'idéologie que dans le pragmatisme. Écoutez-la.
Depuis le début, on a un gouvernement britannique qui a vendu le Brexit comme un triomphe, qui a ensuite expliqué qu'un accord serait facile à trouver. C'est difficile de sortir d'une série de mensonges et d'approximations et d'amener l'opinion britannique à comprendre qu'un accord, c'est un compromis et qu'on ne perd pas de sa souveraineté en construisant un partenariat avec l'Union européenne. C'est ça qui est peut-être en train de se passer, en tout cas je le souhaite, et puis si ça n'est pas mûr maintenant, il faudra reprendre les discussions plus tard, parce qu'on ne restera pas longtemps sans accord avec un partenaire comme le Royaume-Uni, ça c'est certain.
Nathalie Loiseau, lui, était un europhile convaincu et ne mâchait pas ses mots contre Boris Johnson dans son dernier roman. L'écrivain britannique John le Carré s'est éteint à l'âge de 89 ans, on l'a appris cette nuit, ancien espion au service de Sa Majesté avant que sa couverture ne soit dévoilée. John le Carré s'était spécialisé dans les romans d'espionnage à succès. L'espion qui venait du froid, la taupe ou encore la constance du jardinier ont été traduits en 40 langues. À Londres, la correspondance de Richard Place.
Il disait que son principal sujet n'était pas et n'avait jamais été le monde de l'espionnage, malgré son passage dans les services secrets de Sa Majesté. Non, sa grande inspiration, c'était son père, un escroc de génie qui montre la voie à John le Carré, raconter des histoires. Il trouve dans la guerre froide le théâtre parfait pour ses romans. Dès le troisième, il connaît le succès. L'espion qui venait du froid est publié en 1963. Il sera vendu partout dans le monde à plus de 20 millions d'exemplaires. Ses récits sonnent justes et racontent l'époque. Il se balade de Moscou à Bonn en passant par Londres, bien sûr. La fin du rideau de fer permet à Le Carré de se réinventer. Ses livres parlent alors de terrorisme, de la puissance des grands groupes financiers ou du marché international des armes. Comme tout bon espion ou tout bon escroc, on parle de lui sous un nom qui n'était pas le sien, John Le Carré s'appelait en fait David Cornwell.
Richard Place. Et puis on apprend ce matin, une explosion provoquée de l'extérieur a affecté un pétrolier au large de la ville portuaire de Jeddah en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a indiqué en tout cas l'armateur singapourien du navire. Un dernier mot du temps de ce lundi. Une faible perturbation va se décaler d'ouest en est en passant par la région centre et par l'île de France. Elle s'étendra cet après-midi du nord de l'Aquitaine vers les Ardennes. À l'ouest, ciel chargé sur la Bretagne et la Normandie. À l'avant de cette perturbation, matinée plutôt agréable. Les températures comptaient ce matin entre 4 et 12 degrés d'est en ouest et les maximales seront en légère hausse sur la moitié est de la France avec 8 à 13 degrés de 12 à 15 à l'ouest.
Merci Anne-Laure Chouin. Dans une demi-heure environ, vous retrouverez nos camarades Hervé Gardet, Géraldine Mosna-Savoie et Arnaud Laporte pour la transition, le carnet de philosophie et enfin pour savoir à quoi pense un artiste. On va essayer de savoir à quoi pense Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il sera avec nous dans quelques instants et on évoquera les différents dossiers du moment, notamment la laïcité, la question également du séparatisme et puis peut-être aussi un peu d'écologie avec vous. Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
De quoi allez-vous nous parler ?
150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat rencontrent aujourd'hui Emmanuel Macron. Faut-il des conventions citoyennes sur tous les sujets ?